Mondial Sport, Hugo Moissonnier.
Bonjour à toutes et bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour un nouveau week-end dans Mondial Sport, l'émission de tous les exploits aux quatre coins du globe sur RFI. Et ce samedi, on ne vous a pas menti sur la marchandise, c'est bien à l'autre bout de la planète, vu de nos studios en tout cas, que les premiers grands coups de raquette de la saison tennistique ont été donnés. L'Open d'Australie, premier grand chelem de l'année, a rendu son verdict la semaine passée. L'occasion donc aujourd'hui de revenir tranquillement sur les sacres de Madison Keys d'un côté et de Yannick Sinner de l'autre. Une grande première pour la première, un doublé et une confirmation pour le second. Yannick Sinner est bien la figure de proue de la fameuse Next Gen, la nouvelle génération de ténors du circuit masculin. Mais attention, certains papis font de la résistance. Mon fils, Gaël de son prénom, Novak Djokovic, ça vous dit quelque chose ?
Et les Français, tu les regardes un peu ou pas du tout ?
Oui, mais moi j'aime pas trop les Français.
Pourquoi ?
Bah parce qu'ils sont nuls au tennis.
Il paraît que la vérité sort de la bouche des enfants. Un jeune fan de tennis d'à peine 6 ans, un petit peu dur tout de même, car l'une des belles histoires de Melbourne 2025 aura été celle de Gaël, mon fils, qui n'est plus un enfant, 38 ans, mais qui ne pense pas encore à la retraite. À la clé pour lui en Australie, en ce début de saison, un huitième de finale, perdu contre l'Américain Ben Shelton, certes, mais un huitième de finale, le premier depuis 3 ans pour la vedette, faut-il dire ex-vedette, on verra ça. La vedette française, huitième de finale, obtenue après un exploit surtout, un succès lors du troisième tour contre Taylor Fritz, finaliste du dernier US Open. Excusez du peu, je suis certain que le parcours de Gaël, mon fils, à défaut de plaire aux gamins de 6 ans, aux fans de 6 ans, a fait vibrer nos as de la raquette, ceux qui sont avec nous aujourd'hui en studio. Karim Baldé, bonjour Karim.
Bonjour Hugo, bonjour à toutes et à tous.
Tout terrain, toute surface, c'est à ça qu'on reconnaît le grand consultant de Mondial Sport. En ligne avec nous, Alice Froment. Bonjour Alice.
Bonjour Hugo, bonjour Karim.
Alors, vous êtes à distance, on va vous présenter, c'est votre grande première dans Mondial Sport. Alice, vous êtes journaliste spécialisée en sport, en tennis notamment, et vous travaillez, alors ça, c'est pas banal pour des médias scandinaves, norvégiens, si j'ai bien compris.
Tout à fait.
Alors, je vais vous laisser prononcer leur nom, je suis désolé, là je vous renvoie la balle, clairement.
Donc, je suis journaliste freelance à NRCO, avec un K à la fin, mais qu'on prononce CO, et ADN aussi, je fais les commentaires live. Voilà, donc c'est vrai que c'est un petit peu insolite, une Française en Scandinavie, mais ça arrive quand même.
Et
toujours
bah écoutez,
aussi passionné de sport.
Eh bah bien écoutez, pourquoi pas la Norvège.
Grande terre de sport.
Avec en tennis un certain Casper Ruud,
exactement.
Donc qui tient pas le haut de l'affiche, mais qui fait partie de cette nouvelle Next Gen.
D'ailleurs, on dit Ruud ou on dit Ruud ?
Ah, Ruud ou Ruud ?
Finaliste à Roland-Garros. On dit Casper Ruud.
Waouh.
C'est vraiment à la norvégienne.
Ah, ça calme, ouais, ça calme tout de suite. Voilà. En tout cas, vous-même, vous n'avez pas menti sur la marchandise. Vous parlez bien le norvégien. En ligne également avec nous, il a fait vivre cette Open d'Australie 2025 sur les antennes de RFI. Il est parti en backpack avec son sac à dos et son enregistreur à l'autre bout de la planète. Et il a recueilli notamment les réactions de Gaël, mon fils, pour la Radio du Monde. Arthur Franc, bonjour Arthur.
Bonjour Hugo, bonjour à toutes et à tous.
Alors vous êtes encore en Australie. Je n'ose vous demander quelle heure il est, là où vous vous trouvez, pour qu'on mesure votre courage.
Il est 3h15 du matin, donc oui, je voulais absolument être en votre compagnie, donc... J'ai un peu cassé cette nuit, mais je vais m'en remettre.
Bon, bah écoutez, un grand merci. On va pas vous garder jusqu'à 4h du matin, promis. On va commencer avec vous. On a entendu Gaël Monfils ambiancer cet Open d'Australie. Vous êtes d'accord qu'il a été l'une des attractions à Melbourne cette année ?
Complètement d'accord. C'est vrai que bon, il avait fait bon premier tournoi avec un titre à Auckland. C'était déjà assez surprenant. On ne s'attendait pas forcément à ce qu'il puisse enchaîner, notamment du point de vue physique. Et c'est vrai qu'il nous a étonnés, il m'a étonné. Voilà, il a eu un premier tour déjà pas évident contre Giovanni Mpetsi-Pericard. C'était un peu le choc des générations. Il a gagné à l'expérience. Il a confirmé derrière sur à Daniel Altmaier, un joueur allemand qui était dans ses cordes. Et il a surtout sorti cet exploit au troisième tour contre le numéro 4 mondial, Taylor Fritz. Et physiquement, ça a un peu coincé en huitième de finale. Mais à 38 ans, c'est clair que Gaël Monfils nous a impressionnés. Il a montré qu'il en avait encore... qu'il en avait encore sous la pédale.
Karim Baldé, Gaël Monfils, ça vous a surpris, même s'il avait gagné, Arthur l'a rappelé, en Nouvelle-Zélande. Donc décidément, l'hémisphère sud lui réussissait bien juste avant l'Open d'Australie.
Effectivement, et les tons sur dur lui réussissent bien, même d'une manière générale. Alors oui, ça m'a surpris, et on a vu finalement tout Gaël Monfils dans ces deux semaines, si on comprend Auckland et donc sa semaine passée à l'Open d'Australie, c'est-à-dire un joueur qui est capable de coups d'éclat, un joueur spectaculaire également. On le voit sur certains points, il arrive encore à monter au filet à 38 ans, à avoir un jump, une capacité à sauter comme ça pour récupérer la balle assez incroyable. Même Giovanni Mpetsi-Pericard était dubitatif. Il dit, lui a 38 ans. Et c'est vrai que on a l'impression qu'il est presque inoxydable, malgré quand même des blessures dans sa carrière, évidemment. Mais donc, on a vu le meilleur de Gaël Monfils, spectaculaire, qui joue avec le public, qui prend des photos à la fin des matchs avec les supporters français. Et puis j'ai envie de dire, alors c'est pas forcément le pire, mais c'est ce côté exploit sans lendemain. Bien sûr qu'il battait Taylor Fritz évidemment, mais malheureusement derrière, lors de son élimination face à Ben Shelton, si j'ai pas de bêtises.
Ben Shelton, oui.
Voilà, son physique a coincé et on l'avait vu dans d'autres tournois parfois du Grand Chelem où il peut faire de grands exploits et derrière un peu s'effondrer. On l'a vu à Roland Garros parfois. Donc c'est le côté un peu. Il nous laisse sur notre faim en termes de performance, c'est-à-dire pour accéder vraiment au haut du tableau. Mon fils n'a jamais gagné de grand chelem, mais il a fait des demi-finales, notamment il y a 2-3 ans à l'US Open, par exemple. Donc voilà, à ce côté-là, il sort d'une grosse génération, mais voilà, il y a toujours ce petit côté, on se dit « Ah, si seulement !»
Mais cette capacité à séduire le public et à réussir comme ça des exploits inattendus. Alice Froment, Gaël Monfils, la belle surprise de cette Open d'Australie qui n'a pas forcément toujours beaucoup plu, j'ai l'impression, aux suiveurs, ce cru de 2025.
Oui, non, c'est vrai que c'est une belle surprise, mais en même temps, on sait qu'il est capable, comme tu as dit Karim, de faire vraiment des exploits, des coups d'éclat. Je dirais pas sans lendemain parce que bon, à son âge, on pouvait pas espérer quelque chose de plus. C'est déjà extraordinaire qu'il ait battu Taylor Fritz, qui était en forme, hein, vraiment. On est quand même sur le finaliste de l'US Open, tête de série numéro 4. C'était improbable vraiment sur le papier qu'il puisse sortir un match comme ça. Alors bien sûr, derrière, c'est difficile quand il doit enchaîner avec Ben Shelton. Mais en même temps, moi, une image qui m'a vraiment frappée, c'est certes, il abandonne, mais on savait que ça allait être vraiment difficile physiquement d'enchaîner comme ça les deux Américains en forme. Mais il y a une petite image, moi, qui m'a marquée quand même. C'est en sortant du cours, bon, déjà l'ovation qui l'a accompagné pour sa sortie du cours. Et puis, le petit check qu'il fait au père de Ben Shelton. Et je pense qu'après, c'est aussi quelque chose que le père de Ben Shelton a dit. Effectivement, Gaël Monfils, il a inspiré toute une génération, mais pas qu'en France. Alors, je sais que pour le petit garçon de 6 ans, c'est peut-être pas très inspirant, mais Gaël Monfils, en dehors de chez nous, c'est vraiment le joueur dont on nous parle tout le temps. Enfin, moi, je le vois en Scandinavie, en Norvège et en Suède. C'est Gaël Monfils, c'est tout de suite le joueur. On sait qui c'est, on sait qu'il est français. Donc, il a une super réputation à l'extérieur de chez nous, même si parfois chez nous, il peut un peu décevoir. Mais il a fait un super Open d'Australie, vraiment. Il ne pouvait pas faire mieux.
Donc on peut utiliser le terme vedette pour désigner encore Gaël Monfils à 38 ans. Arthur Franc, au-delà de Gaël Monfils, l'ambiance à Melbourne, vous l'avez jugé comment sur ces 15 jours? Heureusement qu'il y a eu Gaël Monfils, parce que c'était peut-être un petit peu sage, ou non, il y a eu d'autres joueurs comme ça qui ont réussi à enflammer les tribunes. Racontez-nous un petit peu.
Bon, globalement, l'ambiance en Australie, elle est toujours très bonne. On sent que les joueurs sont contents de reprendre. Voilà, évidemment, il fait beau, il fait chaud, ce qui n'est pas forcément le cas en Europe. Donc, globalement, tous les joueurs sont contents de reprendre. Il y a des sourires. Il y a de l'envie parce que la plupart des joueurs sont, et des joueuses sont en forme, pas blessés, même si on a vu qu'il y a eu quelques abandons. Et après, côté français, c'est vrai qu'en Miguel Monfils, on a eu le parcours d'Hugo Humbert, qui était un parcours attendu. Il a respecté son statut. Après, voilà, c'est vrai que côté féminin, ça a été un petit peu plus compliqué côté française. Plus globalement, je pense que voilà, la première semaine a été riche en rebondissements. On a eu l'éclosion de certains joueurs. Je pense à João Fonseca, le Brésilien, le Runner Tien, l'Américain, une nouvelle génération, encore plus jeune que celle des Sinner, Alcaraz. Donc, il y a eu pas mal de matchs marquants en première semaine. Et un petit, voilà, une deuxième semaine un petit peu plus terne d'un point de vue tennistique et purement sportif, si je puis dire.
Mais vous nous avez fait une belle passe décisive, les échanges dans Mondial Sport, et pas seulement sur le court, mais également entre nous, puisque Arthur Franc, on va parler justement de cette deuxième semaine, puisqu'on va parler tout simplement des vainqueurs, celle du tableau féminin et celui du tableau masculin dans Mondial Sport sur RFI. On revient sur l'Open d'Australie ce samedi sur RFI, le sacre de Madison Keys chez les dames. Dans un instant, vous restez avec nous, Alice Froment, Karim Baldé, et puis Arthur Franc, et puis Yannick Sinner. Et on ira même en Italie retrouver notre correspondant pour savoir un petit peu si la Sinnermania est toujours ou même encore plus forte de l'autre côté des Alpes, vue de France. Vous êtes sur RFI, ne quittez pas. Space we finna turn in my bed. Still red with the chrome on the rims. Big wheels, me big pimpin', baby. Big wheels, me big pimpin'. Big wheels, me big pimpin', baby. Big wheels, me big pimpin'. I can't tell you how I'm feeling right now, but the chrome heart dripped down from my neck to the ground home. I'm outside with my city right now though. I'm face down in the trenches right now. I'm finna buy another round for what's bound come. I've been working too hard, I deserve fun. Flexing with them in the night, I deserve sun. Give me the fire, give me the finna burn some. I won't show them that my spirit had fed. New look, got the worms in my head. Space whip finna turn to my bed. Still ride with the chrome on the rims. Big wheels, me big, 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 baby. Contemplating the extent to which I play the game and figure how to give them keys when they don't know my name. Could put down masks like Alicia, let this face serve the game. It's formula to the blow up, but I prefer to change. See through perspective of the helpless, wrap around little fingers. Then let this Millie belt like singers on my pinky ring. See, here's the thing, when you connected to a dream that you die for, start doing things to get to finish, even in the shadow. No thing is flawless seems. Live in a dry state, so my pockets need a little cream. I'm beating on the door with smile to show my golden teeth. And let me in, so I went round the back with mud all on my feet. The door was locked, so I asked her up a tree with cans of gasoline. Said, with a chimney, found that bitch and started pouring kerosene. Sparked the lighter I just got from down the street at that Supreme. Burn, baby, burn, tears and eyes, vision blurred. Never thought that what they think of me ain't even my concern. Samaracine, Chrome, A Colors Show, c'est issu de la playlist de RFI. On est chill, on est au calme, on est tranquille entre amis pour revenir bien sûr un événement passé, l'Open d'Australie, le premier grand tournoi de tennis de la saison qui s'est achevé la semaine passée, notamment chez les dames sur la victoire de l'américaine Madison Keys.
Il y a beaucoup de joueuses que j'aime, comme Sabalenka, Swiatek, Coco Gauff. Ce sont les joueurs que j'aime bien.
Et t'as surpris Madison Keys?
Bien sûr, je ne m'attendais vraiment pas à ça. Même qu'elle aille jusqu'en finale et qu'elle gagne en plus. Donc,
qu'elle gagne Sabalenka.
Voilà.
Elle a battu Swiatek en demi-finale et à Sabalenka en finale quand même.
Et toujours, ces fans de tennis qu'on va entendre tout au long de l'émission, ils n'ont pas toujours 6 ans, mais ils ont tous été interrogés par Solène Ravenel, qu'on salue, parfois placée, jamais gagnante jusqu'ici. L'américaine Madison Keys a enfin trouvé la clé. Il fallait que je la fasse.
Oui.
29 ans, premier titre en grand chelem pour cette américaine. Succès en finale de l'Open d'Australie, donc, il y a une semaine face à la Biélorusse. On a entendu Aryna Sabalenka, beaucoup plus connue, beaucoup plus favorite, je crois qu'on peut le dire. Arthur Franc, vous qui avez couvert pour RFI l'Open d'Australie, ça a été une surprise, ce succès, le premier donc en grand chelem à 29 ans pour Madison Keys.
Oui, totalement, totalement. C'est vrai qu'on l'a pas vu venir. Après, elle a quand même gagné elle avait gagné le tournoi d'Adélaïde avant cette Open d'Australie, donc elle était en forme. Mais voilà, elle a sorti le tournoi parfait avec un parcours difficile. Elle a battu notamment la numéro 6 mondiale Elena Rybakina, la numéro 2 en demi Iga Świątek en sauvant une balle de match, puis la tenante du titre et numéro 1 mondiale Aryna Sabalenka. Donc oui, on a le sentiment que c'était un peu un état de grâce pour Madison Keys. Voilà, toutes les planètes se sont alignées. Elle avait échoué en 2017 à l'US Open en finale. Elle a eu aussi pas mal de blessures qui ont pu la freiner parce que c'était une joueuse qui était très très forte étant jeune. Et voilà, là tout s'est aligné pour Madison Keys et les deux matchs qu'elle a sortis en demi-finale et en finale ont été très très impressionnants.
Karim Baldé, les surprises et le tennis, alors forcément après 20 ans de domination quasi sans partage de trois joueurs, on dirait que ça fait pas toujours bon ménage, ça fait du bien et il faut peut-être le tableau féminin pour justement ce genre de parcours inattendus qui vont jusqu'au bout, jusqu'à la victoire.
Ça fait du bien, déjà ça fait du bien de voir une joueuse comme Madison Keys avec son parcours gagner un tournoi du Grand Chelem parce qu'il y a clairement un avant et un après et comme le disait Arthur, effectivement, c'était une adolescente star. Déjà, dès l'âge de 15 ans, elle a gagné ses premiers matchs en WTA. Et à l'époque, on pensait que ça allait être une future Serena Williams, par exemple. Et puis derrière, la dépression, des troubles alimentaires graves, beaucoup de problèmes de poids notamment. Pardon. Et puis, voilà, un classement fluctuant au fil des blessures. Là, elle est revenue aussi loin à l'Open d'Australie. Il y a 10 ans, elle faisait son premier quart de finale à l'Open d'Australie. Donc, vous voyez, c'est quand même une joueuse qui est dans le circuit depuis un bon bout de temps. Mais elle n'avait jamais réussi à atteindre ce niveau-là. Et là, tout s'est aligné cette semaine. Et en battant la numéro 2 mondiale et la numéro 1 mondiale, et Sabalenka visait un troisième sacre consécutif à l'Open d'Australie, c'est vraiment la consécration. Et tout à l'heure, je parlais de Gaël Monfils en disant que voilà, il n'a jamais gagné grand chelem. Bah, elle gagne un grand chelem et il suffit d'en gagner un pour avoir la reconnaissance, surtout dans un pays comme les États-Unis, on aime la victoire. Et la preuve, c'est qu'elle a fait le tour des morning shows, des grands réseaux américains cette semaine après sa victoire à l'Open d'Australie. Donc là, on voit elle a changé de catégorie finalement avec ce titre du côté de Melbourne.
Alice Froment, est-ce que vous diriez, alors non pas qu'une étoile est née, parce que Madison Keys était une étoile en attente il y a longtemps déjà, mais est-ce qu'au moins une étoile est...
René,
voilà, on peut le dire, ressuscitée d'une certaine manière.
Oui, non, Madison Keys, c'est vraiment une leçon de ténacité, d'abnégation et puis d'amour du sport aussi, en fait. C'est vrai que ça n'a pas été facile, hein, tu l'as rappelé, Karim, mais effectivement, elle a enfin pu confirmer ce qu'on attendait d'elle. Moi, ça me fait penser un petit peu... Bon, alors peut-être que l'Australie, c'est la terre promise pour certaines joueuses. Ça me fait un petit peu penser à une Caroline Wozniacki qui a été numéro 1 mondiale, à qui on rebattait encore et encore qu'elle n'avait jamais gagné un tournoi du Grand Chelem. Et enfin, en Australie, ça y est, elle arrive à confirmer cela. Ben, ce parcours-là, dans ce sens-là, ça me fait aussi penser à ce que Madison Keys pouvait espérer. Voilà, on lui avait promis un futur brillant, ça n'a pas été le cas. Et enfin, elle arrive à le confirmer avec de la plus belle des manières aussi, puisque elle bat aussi Danielle Collins, ancienne finaliste en Australie, et puis elle arrive enfin à confirmer ce qu'on attendait d'elle. Donc c'est un beau parcours, et c'est ces petites histoires-là aussi qu'on a envie de voir dans le tennis féminin.
Ah oui, bah ça ressemble à un film hollywoodien. Donc ouais. Peut-être que son pays aura l'occasion de raconter ça sur petit ou grand écran. Arthur Franc, on va vous libérer parce que vous êtes toujours en Australie et il est tard. Vous parliez d'Adélaïde avant de parler de Melbourne. Donc vous avez, j'imagine, pas mal d'endroits à visiter dans ce pays continent. Juste simplement une dernière question. Vous aviez peut-être eu l'occasion de voir d'autres tournois de tennis dans votre carrière. Qu'est-ce qu'il a de spécial quand on est sur place, cette Open d'Australie, par rapport aux autres tournois et par rapport aux autres grands chelems?
Oui, c'est clair que c'est très spécial. Bon, énormément de choses. L'ambiance, comme je l'ai dit un petit peu en préambule, c'est voilà, le début de la saison. Donc, il y a énormément de sourires, de joie de la part des joueurs, des suiveurs. Évidemment, la météo qui contraste un petit peu avec ce qu'on peut vivre en Europe.
Oui, vous êtes en plein été. Vous.
Et puis voilà.
Alors qu'on est en plein hiver, nous.
Oui, voilà, c'est ça. Nous, c'est le plein été ici. Donc voilà, les mois de janvier, février, c'est l'équivalent des mois de juillet et août. Donc forcément, la météo est belle. Même s'il y a eu quelques jours de pluie, la météo peut aussi très vite changer à Melbourne. Mais voilà, c'est un grand chelem très spécial. Il y a beaucoup d'histoires à raconter. On vient de l'évoquer avec Madison Keys. Donc, grand chelem à part, mais il y aura encore plein de belles choses lors de cette saison tennistique.
Bon, et on vous souhaite un bon séjour en Australie, et surtout une bonne nuit, puisqu'il est pratiquement 4 heures du matin, en tout cas pas loin pour vous. Et merci beaucoup d'avoir été tout de même, d'avoir veillé ou de vous être réveillé tôt pour être en direct avec nous, Arthur Franc. On continue à parler de l'Open d'Australie dans Mondial Sport. On revient sur le palmarès de ce premier grand chelem de la saison, et notamment dans un instant sur la victoire, le doublé, la confirmation de l'Italien Yannick Sinner. Mais en attendant, un tour d'horizon de l'autre, des autres actualités sportive du jour.
Mondial Sport.
Avec Christophe Niremzian qui nous a rejoint. Bonjour Christophe.
Bonjour Hugo, bonjour à tous.
Le football, la suite de la 20e journée de Ligue 1 et notamment le déplacement en ce moment du leader, le PSG, à Brest, tiens.
Oui, le premier des trois duels prévus, vous le savez, dans les prochaines semaines, puisqu'au rendez-vous programmé en championnat aujourd'hui, se sont ajoutés depuis hier les matchs de barrage de Ligue des Champions les 11 et 19 février, une demi-heure de jeu au stade Francis Lebé, et le Paris Saint-Germain vient d'ouvrir la marque par Ousmane Dembélé. Deux autres matchs au programme tout à l'heure. Monaco, troisième, qui accueille Auxerre à 18h TU et à 20h05 TU. Lille-Saint-Etienne.
Et l'incontournable Ousmane Dembélé, oui, décidément.
12e but.
En Angleterre, 24e journée de Première Ligue. Et Liverpool, le leader, qui joue à Bournemouth.
Oui, match en cours. Et là encore, Liverpool qui mène 1-0. Devinez l'ouverture du score. Un certain
Moussala.
Voilà, sur penalty, ce qui ne gâche rien. Les Reds, dont pour l'instant, bien partis pour accentuer leur avance sur Arsenal avant le choc de demain avec Manchester City. Alors, les Gunners qui auront d'autant plus la pression que Nottingham Forest, troisième tout à l'heure, est revenu à leur hauteur en assommant vraiment Brighton à domicile 7-0 grâce notamment à un triplé de Chris Wood. Les joueurs de Nuno Espirito Santo se reprennent de façon éclatante après avoir coulé la semaine dernière à Bournemouth justement 5-0. La 22e journée de Liga espagnole, le Real Madrid joue ce soir sur le terrain de l'Espagnol Barcelone qui est au fond du classement, et tout à l'heure à 17h30 TU, l'Atlético de Madrid reçoit Mallorca. Et puis en Allemagne, le Bayern Munich a eu un petit peu plus chaud que prévu tout à l'heure face au mal classé Kiel. Victoire finale 4-3, doublé de Haiken. Mais les Bavarois menaient quand même 4-1 au début du temps additionnel avant de se faire rattraper par 2 buts. Ça n'a pas suffi pour créer l'exploit.
Un petit tour par le rugby. Le ballon ovale qui succède au ballon rond. Christophe Diremzian, la première journée du tournoi Destination se poursuit. On va revenir dans un instant sur le succès de l'équipe de France. Mais vous signalez que l'Écosse a gagné face à l'Italie.
Oui, c'est l'un des matchs du jour. Succès 31-19. Et puis dans quelques minutes, l'Angleterre lance son tournoi en Irlande. Et puis vous l'évoquiez, le 15 de France qui a fait une entrée tonitruante hier dans le tournoi en écrasant le Pays de Galles 43-0. Seul petit bémol, l'expulsion de Roman Tamak à 10 minutes de la fin. On est dans une actualité tennis dans Mondial Sport. Ça tombe bien, il y a une actualité tennis par équipe en ce moment avec la Coupe Davis qui redémarre ce week-end à tous les niveaux. Premier tour qualificatif dans le groupe des meilleures nations. La France affronte le Brésil ce week-end à Orléans et mène une victoire à zéro après le succès d'Hugo Humbert sur le jeune prodige João Fonseca. Victoire en 2-7, 7-5, 6-3. Arthur Fils joue en ce moment contre Thiago Seboth Wild.
Oui, deux joueurs dont on a parlé il y a quelques instants, Humbert et Fonseca. Et avant de revenir au tennis, l'un des plus grands rendez-vous de la jeune histoire du MMA français, c'est ce soir à Riyad.
Oui, c'est un face-à-face entre Nassourdine Imanov, 28 ans, une figure montante de la discipline, et une légende du MMA, le néo-zélandais d'origine nigériane Israel Adesanya, ancien champion du monde en moins de 84 kilos. Imanov est actuellement 5e du classement de sa catégorie à l'UFC, qui est, vous le savez, la principale organisation du MMA. Et gagner ce combat lui ouvrira sans doute la voie vers la conquête d'un véritable titre. Et accessoirement, remonter un petit peu la côte des Français, pas très en réussite ces derniers mois après les échecs de Cyril Gane face à Francis Ganou et John Jones, et puis de Benoît Saint-Denis qui a été battu par Dustin Poirier. Le combat sera aussi aux alentours de 19h30 temps universel, et Sofiane Amazian ne manquera pas de vous en parler tout au long de la journée.
Eh bien écoutez, on attend ça avec impatience. Merci beaucoup Christophe Diremzian. Comme premier retour sur la victoire du 15 de France en rugby hier, les Bleus ont frappé fort en ouverture du tournoi des Destinations. Vous en parliez, le score très lourd face au Pays de Galles, 43-0, 7 essais inscrits dans cette démonstration par les Français et un public forcément conquis, un public plus ou moins averti. Le reportage Babacar Diarra au Stade de France.
Dans une enceinte plongée dans le noir, un spectacle son et lumière est venu lancer la soirée pour le plus grand plaisir de Véronique et Mervé venue de Colmar.
C'est la première fois. Et il me semble que c'est la première ligue. Enfin non, c'est... Non, c'est quoi,
c'est... On est d'Alsace, on a déjà fait l'apéro, alors on est vraiment désolé.
On est équipé de la tête aux pieds, le béret, le drapeau, l'écharpe,
le sourire.
Il nous manque juste la baguette et voilà.
Des supportrices venues avant tout donner de la voix, à défaut de connaître l'intégralité des joueurs. Ceci dit, un nom leur a forcément tapé dans l'œil face à des faibles Gallois, celui de Théo Atisokbe, auteur du premier essai de la partie et même d'un doublé avant la mi-temps. Le 3 carrel d'origine togolaise a réussi des débuts de rêve dans le tournoi des 6 nations.
Un tournoi que je regarde depuis que j'ai 5-6 ans. Je me souviens qu'un ami nous invitait toujours à son anniversaire début février. On était toujours devant les matchs, Pays de Galles-Irlande, tout ça. Donc c'est quelque chose d'assez mythique. Et là, de pouvoir faire son premier match dans ce tournoi à la maison, en ouverture face au Pays de Galles, c'est quelque chose de fort, de beau, et que ce sera un moment qui restera gravé à tout jamais.
Avec 7 essais inscrits et 0 points encaissés, la fête aura été totale. Le sélectionneur Fabien Galthié aura même pu faire tourner son effectif très tôt en seconde période. Deux des entrants n'auront pas été épargnés par une frange du public, Hugo Oradou et Oscar Jégou, de retour sous le maillot bleu, mais en attente du verdict de la procédure d'appel en Argentine dans l'affaire qui les concerne pour viol en réunion. Le sélectionneur Fabien Galthié s'y attendait.
On assume nos choix. Ce sont des choix forts, assumés. Il y a une procédure qui a été mise en place. Ils ont été jugés, ils ont été arrêtés. Et c'est normal. Et à partir du moment où ils sont sélectionnables, où ils performent, ils ont le droit à une deuxième chance. Ils ont le droit à la rédemption. On est cohérent, on assume. Et sur ce match-là, ils nous ont rendu la confiance qu'on leur a donnée.
Seul point noir sportif d'une soirée sans frayeur, la sortie tête basse de Roman Tamak. Pour son retour après 17 mois d'absence en bleu, le demi d'ouverture a été exclu pour un coup d'épaule sur un Gallois. Il ne jouera pas samedi prochain à Twickenham face à l'Angleterre.
Babacar Diarra, de retour du Stade de France, où vous l'avez croisé.
Et
Karim,
oui,
Baldé, vous y étiez.
En tribune presse.
Ça s'est bien passé, vous avez bien apprécié la démonstration des Bleus.
Oui, clairement, on savait que les Gallois étaient dans un creux générationnel, notamment depuis 3 ans, mais je ne pensais pas que c'était aussi grave que ça, pour être tout à fait sincère. Après, côté français, cette année, avec le retour d'Antoine Dupont dans l'équipe de France, il n'avait pas joué le tournoi l'année dernière pour cause des Jeux Olympiques et c'était consacré au rugby à 7. Là, Fabien Galthié a dit, il n'y a pas le droit à l'erreur. La France doit viser la victoire et ça passe notamment...
Parce qu'il y a eu victoire olympique avec Antoine Dupont pour le rugby à 7. Donc le 15 maintenant à la pression.
Le 15 à la pression, et pour gagner les 6 nations, c'est pas seulement gagner les matchs, c'est aussi obtenir ces fameux points de bonus offensif, donc marquer plus de 4 essais. Et ça va être très important parce que ça va être très serré au classement final. La France est vraiment attendue pour enfin gagner son tournoi.
Allez, retour au tennis dans Mondial Sport.
It's a second for Sinner down under.
3 sets to love. 6-3, 7-6, 6-3.
It's a third major, and he was quite simply unstoppable.
Moi, je pense que c'était signé, Sinner pour moi. Dès qu'il arrive en finale, c'est presque assuré pour moi. C'est le meilleur joueur du monde actuellement. Il va prendre la relève de Djokovic. C'est la prochaine génération, il faut respecter les joueurs. Chacun son temps et voilà.
Et toujours ces fans de tennis qui viennent jouer le rôle de consultant le temps de quelques secondes dans Mondial Sport et qui viennent s'exprimer donc sur le succès en trois manches de Yannick Sinner la semaine dernière face à Alexander Zverev en finale à Melbourne. Sinner qui donc s'adjuge 6-3, 7-6, 6-3, le troisième grand chelem de sa carrière à 23 ans à peine. Le premier, c'était déjà l'Open d'Australie en 2024, l'année passée. Et il y avait eu, entre ces deux Open d'Australie, l'US Open 2024 contre Taylor Fritz, dont on a parlé, tombé en deuxième tour contre Gaël Monfils cette année. Yannick Sinner, incontestable numéro un mondial, le meilleur joueur de tennis du moment. Et il y en a un qui sera d'accord avec cette affirmation, c'est Matteo Cioffi. Ciao Matteo.
Bonsoir Hugo, bonsoir tout le monde. Il est impossible de n'être pas d'accord avec vous.
Le correspondant, votre accent vous a trahi, de RFI en Italie, à Milan. Tous les Italiens, tous vos compatriotes sont d'accord. C'est la star, c'est même la star du sport italien en général.
Ouais, c'est l'emblème, c'est vraiment l'emblème du sport italien. Faut dire une chose à propos de cette victoire, de ce succès en Australie, car en 2024, les Italiens savaient que Yannick était fort, c'était l'homme à battre, mais ces mêmes tifosi se seraient contentés de le voir arriver en demi-finale, pourquoi pas en finale. 12 mois plus tard, les mêmes tifosi s'attendaient à cette victoire, l'exigeaient. Victoire qui est donc arrivée sans surprise et qui a confirmé la puissance de ce joueur aux yeux du monde, même s'il y a eu quelques frayeurs, pas sur l'aspect sportif, car Sinner, dans le tournoi, n'a concédé que 2 sets aux adversaires, mais plutôt sur le plan physique, avec ce malaise inquiétant accusé pendant le match face au Danois Rune en 8e des finales. On a parlé d'un virus intestinal, une chose pareille, on l'avait vu aussi à Wimbledon lors du défi contre le russe Medvedev. Pour revenir à la réaction italienne après ce slam remporté, la presse a accueilli les triomphes à Melbourne en soulignant le fait qu'en ce moment, Sinner n'a pas d'antagoniste sur Terre. Gazzetta dello Sport, le lendemain du succès, a titré sur sa première page « Martien ». On a parlé d'une autre galaxie aussi, par exemple, sur le quotidien sportif Tutto Sport ou sur la photo de Yannick Sinner, le journal turinois, a écrit en ouverture de page « L'Australieno », comme à dire que c'est un joueur, un alien.
Un extraterrestre.
Un alien au Chéronos.
Ouais, il n'est pas sur la même planète. Bon, il y a une part comme ça de triomphalisme, hein, on ne va pas en vouloir aux Italiens pour ça. Effectivement, c'est un numéro un incontestable. C'est aussi peut-être l'enseignement de ce succès, presque ce double succès. Je ne parle pas forcément que de l'Open d'Australie, mais il a gagné le dernier grand chelem aussi de la saison dernière. Et là, ouais, le premier de cette saison, là, ça vous pose un leader du classement ATP, Karim Baldé.
Ça pose clairement un leader du classement ATP. Et puis surtout, c'est ce côté machine. C'est-à-dire que Yannick Sinner n'a pas de faille. Quand on regarde Yannick Sinner jouer, il est bon dans tous les secteurs de jeu. Il est bon, il arrive, il a toujours les bons choix tactiques aussi pendant les matchs. Il arrive à faire les amortis au bon moment, il arrive à cogner au bon moment. Et puis, on le voit également dans la gestion des matchs parce qu'il remporte quasiment systématiquement ses jeux décisifs. Quand ça va justement à 6 jeux partout dans une manche, il est toujours au-dessus mentalement, il arrive toujours à garder son sang-froid. Et c'est pour ça qu'il apparaît presque froid, trop froid d'ailleurs. Et c'est ce qui fait qu'il n'est peut-être pas si populaire que ça. Mais en tout cas, voilà, c'est vraiment une machine. Et il confirme sur la saison dernière. Et par rapport à ce que disait Matteo sur l'Italie, effectivement, avant lui, le dernier vainqueur de Grand Chelem, ça remontait à 1976. Donc effectivement, il y a eu un énorme trou comme ça, même s'il y a eu des grands joueurs de tennis entre-temps, bien sûr. Donc on comprend la fierté que peuvent montrer les tifosi devant un champion transalpin comme Yannick Sinner.
Alice Froment, vous êtes en ligne avec nous, journaliste spécialisée. Vous êtes une tifosa, vous, de Sinner. Est-ce qu'il vous plaît ce nouveau ténor, ce nouveau imperatore presque du circuit?
Alors, j'oserais pas quand même piquer la légende du tifosi amateur, mais effectivement, quand on voit le tennis que propose Yannick Sinner en ce moment, on peut que s'incliner devant autant de maîtrise, de précision. J'ai tendance à dire que Yannick Sinner, c'est un peu comme Dexter. Il est clinique, il sait quand...
le tueur en série du show éponyme, hein, c'est ouais. Ça
Eh bien, un petit peu, oui, mais alors, heureusement, il n'a pas ce côté-là, mais sur le court, vraiment, il a cette capacité d'analyse qui fait que, voilà, même en difficulté, et c'est la marque des grands, c'est ce qui fait qu'il est un très grand en ce moment, même en difficulté, que ce soit physique ou tactique. Je pense à sa tactique par rapport à son match de l'année dernière, sa finale de l'an dernier, où il est mené 2-7-0 et il arrive à renverser le match face à Medvedev. Donc là aussi, on sent qu'il a énormément progressé par rapport à l'année dernière, mais il est capable de sortir de ces situations difficiles. Et c'est ça qui fait que aujourd'hui, ben je, sans être tifosi, sans être tifosa, je suis quand même très impressionnée par ce qu'il propose et ça donne envie de voir la suite de la saison. On sait que sur Terre, effectivement, il n'a pas forcément eu aussi bons résultats qu'en Australie. Donc, on a aussi envie de voir ce qu'il va pouvoir proposer pour la suite de la saison, ça c'est sûr.
Matteo Cioffi, il n'y a pas que Sinner qui gagne en tennis italien, c'est le tennis italien qui gagne, on va dire, en suivant la trace de Sinner. Il y a eu des succès, on va dire, internationaux.
Il y a la Coupe Davis.
En Coupe Davis. Il y a eu un succès également féminin dans cet Open d'Australie, pas en simple mais en double.
Oui, bah, il faut dire que c'est vrai, il y a Yannick Sinner qui est leader, mais derrière lui, les choses marchent très bien. Double masculin, il n'y a pas eu de succès, ils ont perdu en finale, c'est-à-dire le duo Bolelli-Vavassori. Ils sont allés vraiment très proches de la victoire, mais à la fin, ils ont perdu face
à Giovanni. Vous voyez, je vous vois trop beau.
Et Patten, l'anglais Patten. Mais le double italien est aussi très, très séduisant aussi chez les femmes avec Errani, Paolini, mais n'oublions pas, médaillé d'or aux derniers Jeux Olympiques de Paris. Et en plus, l'Italie, et là aussi, je vous en prie de pas l'oublier, mais de le souligner, a gagné les deux dernières éditions de la Coupe Davis. Donc, c'est vraiment un système qui, à tous les niveaux, fonctionne. Chez les hommes, actuellement, on compte 11 joueurs parmi les 100 premiers, qui est un record absolu dans l'histoire du sport, du tennis italien.
Et est-ce que ça rejaillit, ça ruisselle, si je puis dire, sur le monde amateur? Je crois que oui, on a un engouement pour le tennis, y compris chez les jeunes, dans les clubs.
Oui, tout à fait. On est tous devenus fans du tennis. Il y a eu récemment un sondage qui a montré comme le tennis est le deuxième sport le plus aimé par les Italiens. 22 millions d'Italiens sont fans, bien entendu, du football. Mais derrière, ça commence à revenir. 18 millions d'Italiens s'en foutent pour la raquette. Donc voilà, les choses sont en train de changer. Les inscrits à la Fédération italienne de tennis continue à augmenter. En 2001, ils étaient 130 000. En octobre 2024, ils étaient 1 027 000. Donc, vous voyez, c'est presque 10 fois plus. Et les choses vont bien aussi du point de vue économique, car grâce aux pratiquants, la Fédération italienne de tennis a encaissé l'année passée 204 millions d'euros contre 17 millions enregistrés en 2001. C'est un pourcentage, une variation de pourcentage, je crois, de 1100%, plus 1100%. Incroyable.
Alice Froment, on entendait un petit garçon français dire que les tennisman de son pays étaient nuls en ouverture d'émission. La France et l'Italie sont un petit peu des cousins qui se tirent la bourre. Alors, ça va mieux en football pour la France que pour l'Italie, mais en termes de tennis, il y a de quoi être jaloux vu de France.
Jaloux, je n'irai pas jusque-là, mais effectivement, c'est vrai que quand on voit la génération du tennis italien et ce qu'elle est capable de proposer en ce moment, c'est vrai que ça fait envie, mais ça peut aussi nous inspirer. Je pense qu'il n'y a pas forcément à être jaloux de nos voisins transalpins. Ils ont effectivement trouvé des clés là pour faire éclore une belle génération, mais nous aussi, on a quand même des bonnes raisons de garder espoir. On a derrière aussi pas mal de joueurs qui vont, je crois, poser quelques petits problème, pas forcément à Yannick Sinner, mais à d'autres joueurs.
Et Karim Baldé, quand même, cette petite ombre au tableau, l'éléphant dans la pièce, quand on parle parle de Yannick Sinner, des problèmes extrasportifs, double contrôle positif l'année dernière, contrôle antidopage, contamination accidentelle, a priori tout le monde est d'accord là-dessus, pas de suspension, mais ça c'est pas tout à fait avéré
encore.
Parce que l'Agence mondiale antidopage, la fameuse AMA, réclame une sanction plus sévère, une sanction même tout simplement, et une longue suspension. Et elle a saisi le tribunal arbitral du sport, donc le niveau un peu suprême de justice sportive. Une décision attendue en avril, ça empêche de profiter de savourer, même en tant qu'observateur neutre, les succès de Yannick Sinner.
Bah, tant qu'il y a une ombre qui plane, forcément, on garde ça dans un coin de la tête. Hein. Faut pas être naïf. Et c'est pour ça que cette saison 2025, elle s'engage bien pour Yannick Sinner dans la foulée de ce qu'il a fait en 2024. Mais avec cette date clé en avril, ça va être un tournant. Soit il est innocenté, et puis là, voilà, bah, il va continuer sa saison, notamment à la saison sur terre battue, hein, qui va arriver à ce moment-là, d'ailleurs, au mois d'avril. Soit il y aura une sanction et ça peut marquer un coup d'arrêt. Donc c'est pour ça que vraiment, la saison de Yannick Sinner, elle est formidable, elle sera formidable jusqu'au mois d'avril, et là, il y aura un tournant vraisemblablement.
Merci Matteo Cioffi d'avoir été avec nous. J'imagine qu'en Italie, on s'inquiète moins que du côté de Karim Baldé. Bon, j'ai pas forcément le temps de vous faire réagir, mais on avait déjà parlé avec vous, notamment de Yannick Sinner, dans une émission passée de Mondial Sport, et je vous invite à aller visiter notre site www.rfi.fr pour écouter ça. Et encore merci, ciao Matteo Cioffi, on vous retrouve rapidement et notamment dans Radio Foot International sur RFI. Jaron Marshall, Jadanae dans Mondial Sport sur RFI. Win is a win. Les victoires, elles sont surtout en tennis depuis la saison passée pour la next gen, la nouvelle génération. Sinner, Open d'Australie, US Open en 2024, de nouveau Open d'Australie en 2025. Alcaraz aussi, représentant de la next gen, qui gagne à Roland Garros notamment. Mais qui a gagné le dernier tournoi olympique? Eh bien, un certain Novak Djokovic. Alors, certes, Federer et Nadal ne sont plus là pour tout truster. Djoko, il n'est plus tout jeune, mais il est encore là. Alors la nouvelle génération, celle qu'on attend depuis des lustres, est-elle vraiment tranquille? Ou bien certains papis comme Novak Djokovic la menacent-elles?
Il est toujours en forme, il est toujours là. Dommage, la blessure contre Zverev l'a éliminé. Mais moi, j'aurais bien voulu voir un petit Djokovic-Sinner en finale parce que je pense vraiment que Djokovic peut battre Sinner. Et c'est le seul qui veut le battre.
Djokovic, malheureusement, je pense que pour lui, ça va être très dur parce que le tennis vraiment de haut niveau, c'est-à-dire pour arriver en finale et gagner une finale d'un tournoi d'un Grand Chelem, c'est devenu hyper, hyper physique. Avec sa volonté, j'espère qu'il va encore gagner soit Roland Garros, soit l'US Open. Moi, c'est tout ce que j'espère hein, parce que je l'aime bien quand même. Hein. Moi, j'ai vécu de belles années avec lui.
Quel est le joueur que tu as préféré?
Djokovic.
Pourquoi?
Parce que c'est un grand champion. Je veux être plus fort que Djokovic. Moi, je veux
25 grands chelems.
Ben le revoilà, notre petit fan de 6 ans. Djokovic, ça, il aime. Alice Froment, Djokovic, un titre olympique à Paris, mais surtout 24 grands chelems,
oui.
Le record. Il n'est plus tout jeune, mais il est encore là. Demi-finale d'un tournoi, l'Open d'Australie, qu'il a remporté à 10 reprises déjà dans sa carrière. Est-ce qu'il est encore capable d'aller embêter la fameuse Next Gen, le Serbe ?
Oui, je pense qu'il a encore montré. C'est vrai qu'il faut qu'il fasse de plus en plus attention à son corps. C'est aussi, ça fait aussi partie de sa gestion de carrière. Mais en termes de QI tennis, évidemment, quand on a 24 grands chelems, on est toujours une menace. Et puis, on sait aussi qu'il s'est mis dans la tête et son ambition, c'est d'aller gagner ce record absolu, le 25e, dépasser Margaret Court. Donc forcément, tant qu'il aura cette motivation-là pour aller chercher ce record ultime, il sera toujours dangereux. Et on a vu aussi en Australie qu'il s'était associé à Andy Murray pour essayer d'aller chercher justement cette nouvelle génération. Andy Murray qui a pris sa retraite il n'y a pas si longtemps que ça, donc qui connaît les joueurs qu'il va devoir affronter. C'était une association, vraiment une des images, je pense, aussi de ce tournoi, l'association entre un ancien du Big Four et Novak Djokovic. C'était assez chouette à voir.
Oui, parce qu'Andy Murray, c'est un peu le quatrième larron de cette grande période de domination qui a duré presque 20 ans, avec évidemment Federer, Nadal et donc Djokovic. Djokovic, le papy, continue de résister. Il ne faut pas encore l'enterrer, Karim Baldé.
Non, il ne faut pas l'enterrer. Après, c'est vrai que 2025, ça va être la quête de ce 25e, ça tombe bien, titre du Grand Chelem. On va voir s'il arrive dans les trois autres tournois du Grand Chelem, à savoir Roland-Garros, Wimbledon ou l'US Open. Sur terre battue, ça va être un peu dur parce que c'est vrai qu'au niveau physique, et là, on l'a vu lors de son abandon face à Alexander Zverev en demi-finale, bah voilà, et pourtant, c'est un résistant, c'est un dur au mal. On l'a vu même à Roland-Garros pour l'année dernière. Mais quand ça commence à lâcher, ça couine un petit peu plus. Et sur le rythme, parce que l'année dernière et l'année d'avant, il a décidé de faire peu de tournois, mais vraiment de se donner à fond pour aller viser ses grands chelems. Là, cette année, apparemment, il aurait une autre approche pour jouer peut-être un peu plus de tournois, pour avoir un peu plus de rythme. Donc, ça va vraiment être là la question de l'équilibre pour Djokovic, avec bien sûr cette visée du 25e titre du grand chelem. C'est tout ce qui l'intéresse maintenant, vu son énorme palmarès.
Alice Froment, merci beaucoup d'avoir été en ligne avec nous pour cette première dans Mondial Sport. Qu'est-ce qu'on vous souhaite sur le plan tennistique pour les semaines à venir ? Vous la voyez comment cette saison en 2025 ?
Bah écoutez, je la vois assez pimentée, effectivement. Donc, j'espère que pour terminer un petit peu la saison, et puis j'espère qu'on verra de nouveaux vainqueurs en grand chelem, hein, notamment du côté masculin. Et puis, quelques belles petites surprises françaises quand même. Là, je suis à Rotterdam où pas mal de Français sont engagés. Donc, il me tarde de voir voir ce que Arthur Fils ou MBTC Péricard peuvent faire sur cette saison.
Eh bien écoutez, vous aurez peut-être l'occasion de parler de leurs exploits de nouveau dans Mondial Sport. Merci à vous, merci Karim Baldé, merci à Cetus Amaké. Et puis bien sûr merci Hélène Avril et Diego Tenorio. Oui, c'est bien lui. Ils étaient aux manettes aujourd'hui. Mondial Sport revient demain, on parlera Formule 1. Lewis Hamilton, ça vous dit quelque chose ? Ferrari, ça vous dit quelque chose ? Karim Baldé ?
Évidemment.
Ça c'est un beau mariage, mariage de raison, mariage d'amour. Sûrement.
Ouais.
Noces funèbres pour.
J'espère pas, mais j'en ai peur.
Deux grandes marques un peu en déclin, ouais. Il faut le dire. On verra ça demain sur RFI. En attendant, excellente soirée. Un nouveau journal sur les antennes de la radio.